Beurre FM. 6h-9h, 6h-9h, la matinale avec Kim et Mona.
Il est précisément 8h07, bon courage à vous si vous êtes dans les transports en commun, si vous êtes déjà sur les routes en train de circuler, parfois c'est un peu compliqué, on est ravis de vous accompagner mesdames et messieurs ici à Beurre FM avec nos invités, ils sont présents. On va commencer par Khaled Miloudi, bonjour et bienvenue à toi Khaled.
Ouais. Bonjour.
Wahid il applaudit. Wahid Bouzidi est là aussi présent avec nous. Et ce matin, eh bien, Khaled Miloudi, on va parler de ton livre Les couleurs de l'ombre. Alors avant même de développer autour du de ce livre et de ton parcours totalement atypique, le titre Les couleurs de l'ombre. Couleurs et ombre. En français, quand on va à l'école, la première des choses, on va dire. Qu'est-ce que vous constatez? Bah, une opposition.
C'est une métaphore.
Bon, selon toi, alors c'est pas exactement une métaphore.
C'est une oxymore.
Voilà, exactement. Hein, une oxymore.
Une oxymore.
C'est c'est les contraires.
Ça va
c'est
aller, te prends pas la tête.
Ouais. Et donc, le titre. Pourquoi ce titre et est-ce que c'est toi qui l'as voulu justement, puisque on le sait aujourd'hui, tu es poète, tu donc aimes jouer avec les mots. Pourquoi ce titre?
Ben c'est le titre d'un poème, d'un des premiers poèmes que j'ai écrit, pour parler un peu de moi. Et ben ce titre, il représente un peu aussi ma vie. Et je crois que dans l'ombre aussi, il peut y avoir de la lumière. Comme dans un tableau noir, quand on sait bien regarder, on peut aussi apercevoir quelques rayons de lumière. Donc voilà, pourquoi ce titre?
Incroyable, évidemment, le sens des mots. Comment on a une voix posée, monsieur Khaled Miloudi?
Ça, c'est la patience.
Ah ben justement, ouais.
Ça, c'est dans les plans qu'à l'ancienne, c'est la patience.
Wahid est là pour ramener le côté, évidemment, de l'humour. Non, mais c'est vrai, comment on peut avoir. Je suis charmé par j'avais vu une vidéo de toi.
Il nous a anesthésié, t'as vu?
Ouais, le calme. Alors qu'on a un passé quand même, on va en parler, qui est assez douloureux, qui est c'est la vitesse. Il faut être vif, faut être réfléchi et un peu énervé quand même pour faire ce métier de ce qu'on appelle la voyou. Crassi, hein, c'est comme ça qu'elle est nommée. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'elle est nommée.
Je sais, mais ce mot.
D'où te vient ce calme? Est-ce que c'était naturel en toi? Ou est-ce que finalement, avec les années, ce qui t'est arrivé, tu as appris à devenir comme ça?
J'ai toujours aimé échanger, partager, communiquer. Donc là, c'était pas nouveau pour moi. Mais c'est vrai que depuis que je me suis apaisé, depuis cette fameuse révolution intérieure à l'intérieur d'une cellule, voilà, je suis quelqu'un d'apaisé. En général, quand on est apaisé, ben voilà, on parle calmement, on n'a pas besoin de s'exciter.
Khaled, et quand il parle calmement, tout le monde l'écoute.
Ouais, c'est faux.
Je te le dis, il n'y a pas besoin de crier.
Il n'y a pas besoin de crier.
Les gens le savent. Hein,
Khaled, je voulais te poser. Alors, je vais te faire une fiche de police, mais t'énerve pas. Hein, on a envie de savoir d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, comment tu as grandi, dans quelle structure familiale tu as grandi, et qu'est-ce qui t'a amené finalement à avoir ce parcours justement de braqueur. Comment on arrive à devenir braqueur? Alors, je donne pas ce parcours pour que d'autres t'imitent, mais je veux dire, quelles sont les conditions, le contexte qui ont fait que tu es devenu braqueur?
Avant de te répondre, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est très important. Moi aussi, à chaque fois que j'ai une tribune, c'est jamais pour faire l'apologie des axes que j'ai posés. Bien au contraire, je suis dans la transmission et je travaille avec des jeunes maintenant, comme au lycée Luz Michel à Bobigny, où j'interviens pour animer des ateliers d'écriture et de poésie. Non, pas du tout. Justement, c'est pour déconstruire justement le mythe du braqueur. Parce que pour moi, c'était des mauvais choix. Et cette fameuse question, est-ce que ça serait à refaire? Ben, je dis non, bien sûr. J'ai des enfants aussi que j'ai vu grandir au parloir. J'ai vu mon père mourir. J'ai pas pu l'accompagner puisqu'on m'a refusé la permission. Donc, quelque part, quand on est dans cette transmission, au contraire, c'est pour déconstruire ce fameux mythe. Moi, je suis arrivé d'Algérie à l'âge de 5 ans. Et au fil des déménagements, par rapport au travail à mon père, puisqu'il était analphabète, donc il était simple ouvrier. Donc on a déménagé une quinzaine de fois, on a connu les camps, les cités. On a déménagé à peu près une quinzaine de fois. Donc qui dit déménagement, déscolarisation, désociabilisation, toujours la barrière de la langue, l'exil, puisque les parents ne parlaient pas français. Et puis après, par rapport à une violence intrafamiliale, j'ai été placé en famille d'accueil, donc j'ai fait deux familles d'accueil. Après j'ai fait les foyers. L'école de la rue, la délinquance alimentaire. Je me suis engagé à la marine à l'âge de 14 ans. Je suis parti à l'école des mousses, sur la Jeanne d'Arc pendant un an. J'ai compris tout de suite que c'était pas ma voie. J'étais quelqu'un d'épris de liberté. J'avais déjà cet esprit d'aventurier. Je suis revenu sur Amiens où je faisais de la boxe. Et un jour, le hasard a fait, mon destin a fait que, suite à une bagarre, suite à des insultes raciales, j'ai frappé deux personnes BCBG. Je me suis retrouvé en garde à vue. J'ai été condamné en flagrant délit à 1 an d'incarcération. J'ai fait appel. J'ai été condamné à 18 mois pour une simple bagarre. C'était voie de fait sur la voie publique. Et à partir de là, tout a basculé. J'étais déjà pétri de carences affectives, déscolarisé. Je me cherchais quelque part une famille à cet âge-là. On cherche une forme de reconnaissance que j'avais pas eue. Et les anciens m'ont pris sous leurs ailes. Ils m'ont aidé à cantiner puisque voilà, j'avais très peu de moyens. Ils ont trouvé en moi quelqu'un de courageux, quelqu'un de déterminé. Et j'ai sombré à ma sortie. Je les ai retrouvés. J'ai commencé à braquer. Donc tout est parti de ce virage raté à 19 ans où j'avais plus besoin d'une main tendue qu'une d'une sanction.
Justement, le milieu carcéral, on va en parler avant de développer autour de ton livre. Aujourd'hui, beaucoup de politiques appellent à encore plus de sanctions, d'ouverture de prison. On entend plein de gens d'extrême droite, de droite dure, dire oui, faut les foutre en prison, ces jeunes qui foutent le bordel, entre guillemets. Hein, je reste évidemment poli et je m'excuse du mot, mais c'est clairement le mot. Faut les sanctionner, faut les mettre en prison. Clairement, ce qui t'a amené aujourd'hui, on peut le dire, à cette dérive de braqueurs, c'est le milieu carcéral finalement. D'une simple bagarre qui était qu'on aurait pu sanctionner par un travail d'intérêt général ou une amende rembourser tout à fait, on t'a envoyé en prison pour cette bagarre et finalement c'est là que ça dérape.
Bien sûr, mais on sait aujourd'hui, je crois que c'est un secret de polichinelle, que la prison est une école aussi, une forme d'école du crime aussi, et la prison, donc, quand on est condamné, La peine doit avoir un sens. Et tout est là. La sens n'a pas de peine. La peine n'a pas de sens. Moi, j'étais condamné la première fois, 1 an, j'ai fait appel, 18 mois. Pendant 18 mois, on était livrés à nous-mêmes. En plus, c'était la prison à l'époque, les années 80. Donc, pas de télé, pas de radio, pas de parloir. La lumière, on éteignait à 22h. On avait très peu d'activité. Donc, désert affectif, désert social et désert culturel. Et on sait ce que ça fait, ces trois ingrédients réunis, dans la tête d'un jeune qui se cherche, qui est en pleine construction. Et puis après, beaucoup plus tard aussi, sur ma dernière peine, là, c'est la peine de 30 ans, c'est pareil, j'ai fait les centrales, c'est des vrais mouroirs, où les longues peines sont livrées à elles-mêmes, et pousser les hommes vers leurs côtés les plus sombres laissera des traces indélébiles.
On va y revenir évidemment dans un instant. En tout cas, j'imagine les auditeurs de la radio très intéressés par ton parcours, parce que voilà, il est réel. Et aujourd'hui, on peut le dire, on en parlait vite fait tout à l'heure un petit peu, il y a des grandes institutions françaises qui te convient à venir exposer ton parcours pour motiver les troupes. C'est ceux qui d'ailleurs vont diriger la France demain. Rapidement, en quelques mots, ce parcours que tu as aujourd'hui, qui a été donc chaotique et qui est aujourd'hui doré entre guillemets, hein, c'est-à-dire positif, favorable au regard de ce qui se passe pour beaucoup de gens dans la société. Aujourd'hui, des grosses institutions t'invitent. Par exemple, la Sorbonne, ça ?
La Sciences Sorbonne, Po ? Sciences Po, la Sorbonne, des lycées, et puis des personnes qui s'occupent des enfants placés par la PJJ, c'est-à-dire des mineurs qui sont à l'aide sociale.
Incroyable, hein, destin totalement atypique. Une fierté aujourd'hui d'en arriver là, parce que tu es toi-même chef de famille. Là, on peut parler d'exemplarité pour tes enfants.
Oui, je suis papa. J'ai le bonheur, le grand bonheur d'être papa et d'être grand-père aussi. Et effectivement, la plus grande fierté, c'est de voir mes enfants fiers, bien sûr.
On va y revenir dans un instant. Mona a plein de questions à te poser. On en a aussi, évidemment, sur ton livre. Et j'imagine les auditeurs derrière la radio. Wahid, qui est là de temps en temps, qui n'hésitera pas à mettre une petite punchline. Évidemment, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de recevoir ce matin Khaled Miloudi, Les couleurs de l'ombre, un livre que je vous invite évidemment à découvrir. On va en parler. Il est peut-être disponible partout, dans tous les réseaux habituels littéraires, mais peut-être aussi en Fnac et sur Amazon et j'en passais des meilleurs. Donc allez le découvrir, ce livre, il est vraiment intéressant. Et surtout si vous avez des petits caïds à la maison, des petites frappes, vous savez, pas les vraies frappes, hein, on parle des petites frappes qui se prennent pour des grosses frappes, c'est bien de leur montrer un peu quand même que c'est pas on va dire une voie qui est celle qu'il faut choisir. Bien au contraire, là on parle de quelqu'un qui a l'expérience du terrain. Reste avec nous, on revient dans un instant. Ne bougez pas, vous êtes sur Beurre FM. Et le plaisir plaisir de recevoir ce matin Khaled Miloudi. Les couleurs de l'ombre, son livre est disponible depuis une semaine. Vous pouvez évidemment aller le retrouver sur n'importe quelle plateforme dédiée, bien entendu, à la littérature, Amazon, Fnac, etc., etc. Vous en profitez, bien entendu. Et puis nos invités sont là. On va saluer aussi Wahid qui est avec nous. Wahid, tout va bien ?
Très très bien.
T'es vachement sage aujourd'hui. Je ne t'ai jamais vu aussi calme. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir.
Mon grand frère qui est en face de moi.
Aussi, il est là. Là, on fait plus le malin. On fait plus le malin là, Wahid.
Jamais le malin devant la famille.
Voilà, exactement. Le grand frère qui est présent aussi. Khaled Miloudi, donc ce livre dispo depuis une semaine avec évidemment de la poésie. Alors, on a parlé de ce parcours. Rappelons juste pour que les gens comprennent bien. Combien d'années de prison et à combien tu as été condamné ?
J'étais condamné à 30 ans de prison, dont 20 ans de sûreté, et j'ai effectué 21 ans.
Donc 20 ans de sûreté, que les gens comprennent, ça veut dire 20 ans, tu sors pas ?
Non, et tu discutes au bout de la 20e année, ouais.
Ouais, tu commences à négocier, ouais. En fonction du comportement que tu as eu pendant ces 20 ans.
Et du CDI, si tu n'as pas de CDI, tu sors pas.
Voilà, c'est donc 30 ans de prison, on comprend que là... Voilà, il y a eu des choses graves qui se sont passées, Khaled.
Pas de mort, pas de blessé, mais oui, c'est des braquages de fourgons blindés, une fusillade avec la police, un échange de coups de feu avec la police, mais pas de mort, pas de blessé, Dieu merci.
Bon, et ben voilà. Et aujourd'hui, l'exemplarité pour les enfants. Mona, une question à poser à notre invité ?
Oui, puisque tu as dit que tu avais été déscolarisé pendant ton enfance à plusieurs reprises. Je voulais savoir comment tu as fait, du coup, pour apprendre à bien lire, bien écrire, développer cette plume que tu as aujourd'hui et qui te pousse à faire de la poésie.
Je me suis posé la question quand j'ai commencé à écrire et dans ma mémoire affective, j'ai retrouvé des moments que j'avais 12-13 ans, j'avais été placé dans un cagibi et puis à partir de là, j'ai commencé à lire les premiers Steinbeck.
Okay. T'es placé dans un cagibi.
Ouais, mais on l'a tous. Oui, c'était la punition des parents, ça. Ouais, moi, je l'ai fait aussi, Wahid.
J'ai passé 3 mois. Enfin, c'était pas un cagibi.
Alors, pas 3 mois, non.
C'était, c'était un sous-sol, c'était la cave, c'était le garage, quoi. C'était le garage. J'ai pris un peu de, j'ai édulcoré un peu, mais c'était le garage. J'ai passé 3 mois dans ce sous-sol lugubre, et j'ai découvert à la bibliothèque. J'avais la chance de récupérer des livres de John Steinbeck, donc j'ai commencé à lire. Là, j'avais une lampe frontale. J'ai commencé à lire et j'ai même parfois souri en lisant des livres de Steinbeck, notamment Tortilla Flat, qui m'a fait énormément rire. Et puis après, l'incarcération, bien sûr, j'ai arrêté l'école. L'incarcération a fait que je me suis mis à lire. J'ai repris un cursus universitaire après. Et plus tard, à 52 ans, j'ai passé une licence de littérature et de théâtre. Ce que j'ai fait aussi du théâtre. J'ai joué plusieurs pièces aussi à l'intérieur. Donc voilà, puis après la poésie aussi, la poésie venait de très loin. Mon père était analphabète, donc il y avait la barrière de la langue. Et je crois que j'avais gardé enfoui dans ma mémoire affective tous ces moments où mon père, quand on courait d'administration en administration pour récupérer un papier ou dans les magasins, les sourires mon cœur et amuser des personnes par rapport à son accent prononcé arabe prononcé. Et je crois que c'est resté en moi. Et à l'école, voilà, j'ai tout de suite fait des progrès et commencé à maîtriser la langue de Molière.
8h32, de retour sur notre plateau, Khaled Miloudi, Les couleurs de l'ombre, ancien braqueur, ex-scolar et poète, sorti aux éditions Équateur au pluriel. Donc vous pouvez évidemment retrouver sur toutes les plateformes de vente de livres. Il existe en version numérique ou pas encore? Tu sais ou pas, Khaled, si...
Je crois pas, c'est vrai, j'ai pas l'échelle.
Ouais, parce qu'il y a apparemment, je comprenais que de plus en plus de gens qui lisent des livres maintenant sur en mode numérique. C'est pour ça que je posais la question.
IPad,
ouais, exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le livre, lui, et l'objet est disponible. Est-ce que tu as des attentes particulières avant de parler du contenu autour de ce livre? Parce qu'à la base, ce livre, il n'était pas fait pour une vie commerciale. On en a rapidement parlé hors antenne et j'ai envie de partager ça avec les auditeurs. C'était une forme entre guillemets de testament à ta famille, à tes enfants, parce que tu voulais leur parler, leur dire, parce que le milieu carcéral, c'est un milieu qui est difficile, où on risque sa vie au quotidien, soit par jalousie, soit par règlement de compte, peu importe. Donc c'était un peu ça finalement au départ. Il n'y avait pas de vocation à ce que ce livre soit en parution comme ça chez un éditeur.
Oui, tout à fait. J'ai écrit ce livre comme je te disais tout à l'heure en antenne. La prison est un monde violent. Moi, j'étais dans les centrales de haute sécurité où les gens, la plupart des détenus, maintenant, il y a beaucoup de détenus qui sont atteints de maladies psychiatriques, hein, et n'ayant pas de place dans les hôpitaux psychiatriques, eh ben, ils sont avec nous dans la cour de promenade. Il y a aussi des sales mecs aussi qui se réunissent et qui quelque part voilà veulent leur imposer leurs valeurs qui sont pas universelles pour moi. Et donc voilà, comme je suis quelqu'un d'entier, j'étais prêt aussi à aller au combat. Et donc je me suis dit voilà, si je dois mourir en prison, plus quand tu as 30 ans à faire, enfin j'étais sur 45 ans, j'avais une peine de 20 ans et une peine de 25 ans, donc avant qu'ils me ramènent à 30 ans, j'ai tourné pendant 12 ans dans les centrales avec 45 ans de réclusion criminelle. Impossibilité de...
45 ans, cumul, c'était 45 ans.
J'étais à 45 ans, 20 ans pour le fond gamblindé et 25 ans pour la fusillade après la joaillerie. Et je suis resté pendant 12 ans avec cette perspective d'avenir, 45 ans, donc impossible de se projeter. Donc moi aussi, j'ai sombré dans la violence, dans la colère, dans le ressentiment. Je ne comprenais pas le sens de ma peine. Et je me suis dit, voilà, si je dois mourir, il n'y a que moi qui peux parler de moi à mes enfants. Je vais leur parler de mon enfant, je vais leur parler de l'homme que je suis, et puis du père, bien sûr, et de mon mauvais choix, surtout de mes mauvais choix. Et j'ai été contacté par les éditions Équateur suite à un podcast que j'avais fait sur France Inter. Et suite à ça, j'ai pris quand même le temps de la réflexion. J'en ai parlé un peu autour de moi, à mes proches, et je me suis dit oui, puisque le but étant la transmission, ce livre aussi était pour transmettre quelque chose à mes enfants, mais aussi aux jeunes, aux autres. Et voilà, comme je suis, j'ai quand même un esprit fédérateur, je me suis dit que c'était important qu'il soit publié.
Est-ce que le ministère de la Justice aujourd'hui fait appel à tes services en tant qu'intervenant pour aller au sein du milieu carcéral et parler de ton expérience ou pas encore ?
Alors justement, l'année dernière, entre le mois de novembre 2021 et le 15 mars 2022, je suis retourné 6 fois pour animer des ateliers d'écriture et de poésie dans le cadre d'un programme qui s'appelle Sycomore, c'est la justice restaurative. Et je suis retourné à Réau, où je suis sorti.
Ils t'ont demandé pardon à la fin ou pas? Parce que, non, mais entre guillemets, c'est eux qui t'ont créé, en fait. C'est eux qui ont créé le monstre, entre guillemets, parce que je sais que t'es pas un monstre et vous le saurez en lisant le livre aussi. C'est eux qui ont créé ça, en fait. C'est eux avec la première peine qu'on créé ça, Khaled, non?
Non, tout à fait. Après, voilà, il s'est passé du temps et j'ai pris beaucoup, énormément de recul. C'est vrai que pour l'anecdote, j'ai croisé des surveillants qui faisaient partie un peu des fachos et des ignominies, parce qu'il y en a aussi beaucoup, énormément, hein. Et il faisait semblant de pas me reconnaître.
Ouais. Est-ce que tu as eu peur, Khaled, quand tu es rentré? Je veux savoir, moi, le sentiment, et ensuite on parle de la poésie. Je me dis, un mec qui a fait quand même 21 ans de prison, qui rentre dans le milieu carcéral. Moi, j'ai eu l'occasion d'animer des petites animations à la MAF, à Fleury, Villepin, Tony, et j'en passais des meilleurs. Même quand t'es pas coupable, tu rentres, je te cache pas que j'en menais pas large. J'entendais crrr. Les grilles se ferment, l'autre qui s'ouvre, parce que bon, faut le vivre pour bien comprendre. Il y a aucune possibilité de fuir, hein, je vous le dis clairement. Enfin, à part certains qui ont fait des cavales, mais ils sont très rares. Où ça peut mal se terminer. Mais bah, un auditeur de Beurre FM notamment, qui est déjà venu nous voir ici à la radio, fut un temps qui a un crâne rasé qui vient de Creil notamment.
Edouard Faïd.
Voilà, exactement. Donc c'est quand même. Est-ce que t'as eu un sentiment de mal-être?
Alors, c'est une très bonne question. J'en parle dans mon livre. Je termine justement les deux dernières pages. C'est mon ressenti devant cette porte de prison, de la prison où je suis sorti, et de l'atelier et des ateliers. Et je termine mon livre par le poème, puisque j'ai rendu hommage aussi à une des participantes, une femme de l'ombre, qui m'a écrit un poème, qui m'en a écrit plusieurs, et j'en ai choisi un que je termine mon livre par son poème. Je voulais lui rendre hommage. La veille de ma rentrée à Réau, chez les femmes en plus, parce qu'au début on devait aller chez les hommes et en fin de compte chez les femmes, et je me suis quand même remis en question en me disant, est-ce que moi je suis légitime à apporter quelque chose aux femmes? Et surtout le soir, j'étais pris par une émotion singulière que je connaissais pas. C'est moi, je vais rentrer, je vais ressortir, mais elles vont rester. Alors que ces dernières années, ces deux dernières décennies, c'est moi qui rentrais en cellule après un atelier. Donc quand j'ai poussé la première porte, je revivais un peu, j'étais comme en apesanteur. Je poussais une porte à droite, un sas à gauche. Je revivais les années, 3 ans par là, 2 ans à Clairvaux, 2 ans à Saint-Maur, 1 an à Moulins. Je revivais un peu au fur et à mesure des portes que j'ouvrais. J'étais un peu comme en apesanteur, concentré. Et quand je suis arrivé dans la salle, les femmes sont arrivées. Et là, étonnamment, c'est mon visage que j'ai vu sur le leur. Il avait pris mon empreinte. Parce que c'est moi d'habitude qui rentrais dans cet atelier. Et leur départ était encore plus difficile que leur arrivée, parce que moi je partais avec mon badge, le sourire complice de mes camarades, et elle rentrait en cellule. Alors, seule peut-être, et j'avais cette espérance de me dire, peut-être que aussi on a pu leur apporter quelque chose aussi.
Merci en tout cas pour ce beau témoignage et puis les mots que tu utilises. On marque une nouvelle pause, rapide, okay. Hein, on n'a pas le choix, on le fait maintenant comme ça on s'en débarrasse. Et ensuite on va parler de la poésie, t'es prête à entendre un beau poème ?
Bien évidemment, oui bien sûr, j'avais des questions sur la prison. J'avais quand même une question à te poser parce que j'imagine que t'as dû faire énormément de rencontres.
En fait, c'est l'heure de la pause.
C'est pas grave, laisse-la poser sa question.
Je veux quand même savoir.
Qui va te payer sinon ?
Bien vu, Wahid.
Tu as dit que tu avais fait 21 ans de prison, donc j'imagine que tu as dû rencontrer énormément de personnes. Quelles sont les rencontres justement qui t'ont marqué ? Est-ce que certaines t'ont inspiré du coup à écrire ? J'imagine que.
Bien sûr.
Ça marque.
La plus belle rencontre que j'ai faite, en dehors de la moitié du chemin que j'ai fait moi, c'est ma prof de littérature et de théâtre, Madame Haute Siméon, qui est devenue une amie. Hein, c'est elle qui nous a tirés vers le haut, quoi. C'est elle qui m'a découvert un talent pour la lecture, l'écriture et la littérature. Et elle m'a toujours encouragé, même quand je me démobilisais, quand je doutais un peu. Elle a toujours été là pour nous tirer en haut du sommet, en haut de nous-mêmes, quoi.
Eh bien, moi j'espère que Monsieur Dupond-Moretti, ministre de la Justice,
Steven Spielberg aussi.
Bah, oui, on va y venir. Je te jure qu'on va y venir. Bah, justement, on va y venir. C'est une des questions que j'allais poser parce que Wahid est là devant moi et je me suis dit qu'il serait pas mal dans le rôle du braqueur.
Peut-être pas, non.
Ou du juge. Ça va être pas mal dans le. Je te jure avec une robe, belle robe rouge et tu sais là.
J'en ai une à la maison.
Ah, ouais, voilà, parfait. Bah donc, non mais on va y revenir dans un instant. Mais si le ministre de la Justice nous entend. Franchement, je pense que ce genre de personnage qu'est Monsieur Khaled Miloudi, il est vraiment intéressant. Moi, je ne connais pas Khaled. On n'a aucun lien avant cette émission. Simplement, ton parcours, il me fascine. Alors pas le côté sombre, hein, parce qu'on en a tous un de toute façon. Mais je veux dire que c'est pas ça que moi je partage ici à la radio. Ce qui m'intéresse, c'est de dire à ces jeunes qui nous écoutent aujourd'hui qu'on choisit une voie. Bon gré, mal gré. Des fois, c'est des situations économiques. Ils veulent aider la maman, ils dealent du shit, etc., etc. Moi, je juge personne. Je suis personne pour juger. Mais si on peut leur épargner ces problèmes à venir et ces dérives, je crois qu'il n'y a pas mieux que toi pour l'expliquer. Aujourd'hui, on est très honoré de ta présence. 8h41, on marque une pause et on revient très vite parce que c'est Wahid qui l'a décidé. 8h47, mesdames et messieurs, sur Beurre FM. Il nous reste une 6-7 minutes encore à kiffer ensemble et on parle de notre invité, Khaled Miloudi, les couleurs de l'ombre, ancien braqueur, ex-stolar et poète, accompagné de Wahid Bouzidi, toujours présent.
Ex-stolar et poète.
Ex-stolar, mais parce qu'il était en prison à la maison parce que ses frères le lâchaient pas. Voilà, c'est dans ce sens-là, évidemment. Voilà. Et d'ailleurs, il portait beaucoup de réclamations à ses frères. J'en connais un très très bien.
C'est Princesse Sarah, moi, à l'époque.
Alors maintenant, on va parler poésie. On va parler des mots. Et on a envie, Khaled, de t'entendre sur un poème. Parce que c'est quand même l'objet de ce livre, au-delà du parcours. L'amour des mots et de la poésie que tu mets aussi en musique sur scène, accompagné d'un pianiste, par exemple, avec un acolyte. Tu nous en as parlé d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que tu nous ferais la gentillesse de nous faire un poème comme ça? Je vais couper le bed musical là qui est juste en dessous. Juste ta voix et les mots.
Au creux de sa main, quand j'avais 7 ans, je flânais avec mon père dans les avenues de la comédie humaine avec le sou du petit salaire pour dénicher la bonne affaire. De peur de me perdre avant de fendre la foule dense, il me prenait la main, dans sa main un étau. Derrière son dos, large et massif, tiré, traîné et ballotté, je volais léger au-dessus des pavés, comme un monarque sous le vent. J'en profitais pour caresser de mes bouts de doigts et de ma pomme lisse, la sienne, rugueuse, sûre à l'ouvrage, pour suivre les lignes et les méandres, m'arrêtant l'encre jetée à chaque delta, à chaque presqu'île de ses veines, jusqu'à sentir battre son pouls. En cet instant de grâce, lié, uni, comme jamais, j'aurais aimé habiter et vivre au creux de sa main, au creux de cette main qui protège et qui parle. Peut-être mon père avait-il senti lui aussi les mille points de suture sur la paume de mon âme. Sur le retour, il avait plu. Il m'aidait en me tirant vers le ciel, enjambé de grands troupeaux de nuages d'eau.
Alors là, merci beaucoup pour ce poème dédié à la mémoire du papa, la Rahmo. Dans quelles conditions tu as écrit ce poème ?
Les premiers poèmes que j'ai écrits, c'est pour mon père, l'Ahmou, avec les larmes aux yeux, bien sûr. J'ai pu, grâce à la poésie, donc un format très court, extraire mes bleus sous la peau, dire l'absence et ses affres, continuer à croire dans le noir aux couleurs de l'espoir, chérir la main libre à venir et surtout mieux comprendre les autres, le monde, moi-même, grâce à la poésie.
Vraiment, on est très très sensible à ces mots qui ont de la valeur et qui ont un sens, et on sent aussi l'amour et la pudeur à l'endroit du papa. Moi, j'aime bien la main assurée là. On sent que c'est l'ouvrier qui est immigré, qui est arrivé, qui travaillait. Famille, c'était le travailleur là, Rahmo, comme beaucoup de nos papas. C'est en fait c'est l'histoire commune de beaucoup d'enfants, hein, pas nécessairement de l'immigration, mais nous on la connaît à travers notre expérience parce que voilà, on a les mêmes origines, le même parcours de vie pour beaucoup d'entre nous. Moi, mes parents sont analphabètes, illettrés, ils ont un peu appris à se débrouiller au fur et à mesure parce que mon père est autodidacte et intelligent, donc il a appris l'électronique, il a appris l'informatique, il a appris Internet, alors qu'il savait pas mettre un mot derrière l'autre. Il a été délégué syndical, donc des parcours de vie qui doivent être évidemment semblables à beaucoup d'entre nos papas et nos mamans, courageux, courageuses, qui ont charbonné. Une question, et ensuite je laisse la parole à Mona, parce qu'on arrive bientôt à la fin, il nous reste 4 minutes. Ça passe très vite en votre compagnie, surtout Wahid depuis qu'il ne parle plus à la radio.
Faut faire un truc. Faut commencer l'émission à 4h du matin.
Mais exactement. Moi, j'allais dire, est-ce qu'il y a des projets cinématographiques autour de ta vie, d'une biographie cinématographique transcrite comme ça sur grand écran?
Alors, j'avais commencé à écrire un film et du coup, j'avais tellement de choses à dire dans ce film, il y avait plein d'actions, qu'on avait du mal un peu à rentrer dans le personnage. Parce que je veux d'abord faire un film sociétal et pas un film de voyous, hein, ça m'intéresse pas. Et en fin de compte, je suis parti sur une série et donc j'ai écrit le premier synopsis de mon premier épisode. Et éventuellement, effectivement, je chercherai un producteur pour pouvoir peut-être concrétiser
un vrai projet dans sans donner trop d'infos, mais ça va traiter de quoi, de l'actualité aujourd'hui, de la vie en société, de la vie dans les quartiers, de...
on rentre dans la vie d'un personnage, on rentre dans sa tête, voilà, on est dans sa vie de famille, et puis c'est quelqu'un qui travaille, sa société périclite, il est un peu au bord du burn-out, un peu quand on est sur le fil du rasoir. Et puis il fait des rencontres et puis à partir de là, voilà, il se passe un braquage. Mais le braquage n'est qu'un ingrédient de cette série.
Mais bon, t'as pas pu t'empêcher parce que c'est les souvenirs.
Pas des souvenirs, je crois que le
personnage. Mais je charrie.
Ouais. Plaisante pas trop. Plaisante pas trop parce que je pourrais rien faire pour toi. À un moment donné. T'as vu? Sois maître de tes problèmes.
Tu m'aimes bien, Wahid, de toute façon.
T'aimes bien. Ouais.
Bon, tu me défendras.
Moi, j'ai un titre pour ton film, Persévérance.
Persévérance. Ouais. C'est vrai que c'est un mot qui peut accompagner ta vie. En tout cas, tu t'es battu. Mona, une dernière question à poser à notre invité, Khaled.
J'aimerais surtout que comme on est à la fin de l'émission, nous donner un message d'espoir à peut-être les personnes qui sont en prison actuellement, qui ont envie de s'en sortir, qui regrettent leurs erreurs passées et qui ont envie d'avancer en sortant. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui?
Leur dire de continuer à espérer. Tout est dans l'espérance. De se remettre en question, d'être capable de se regarder en face et de parler de reconnaître ses facilités, de reconnaître ses mauvais choix. Et je crois que pour leur famille, pour leurs proches, c'est déjà une réussite. Et surtout ne pas penser que la société civile est fermée sur des parcours carcérales. Je m'en rends compte, je rencontre des gens, je fais des belles rencontres. Et moi-même, je pensais qu'effectivement, ça aurait pu être une barrière.
Et finalement non.
Et non, bien au contraire.
Bon, on arrive à la conclusion.
Tout est ouvert.
On arrive à la conclusion, pratiquement dernière question. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Parloir de nuit sur Beurre FM, animée par Fatiha. J'ai eu l'occasion de l'animer aussi. Est-ce que c'est une émission que t'as écoutée à l'époque, comme ça par hasard, je te pose la question, hein. C'était dans les années 96-98. Il t'est arrivé de l'écouter?
Bien sûr, j'étais à l'isolement, je me rappelle très bien. On écoutait cette émission-là, et la deuxième émission, c'était L'Envolée aussi, c'est une radio aussi engagée pour les détenus. Et effectivement, y a une forme de reconnaissance. On est des exclus, hein, tu t'en doutes, quand on est détenu, encore plus quand on a l'isolement. Et c'était comme des bouffées d'oxygène, quoi.
Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, à toi, Khaled Miloudi, Les Couleurs de l'Ombre. Merci, Wahid.
Merci à toi. Tiens, on va montrer le livre.
T'as été très sage. Oui, le livre. Tiens, hop, je te l'envoie. Récupère-le. Tac. Hop, merci, montre-le à la caméra. Les couleurs de l'ombre à aller découvrir de toute urgence, mesdames et messieurs, disponible partout. On vous le conseille et on
J'aime
va
beaucoup.
Faire réinviter.
Ancien braqueur, ex-tolar.
Poète. C'est, très c'est bon. La conclusion. C'est très et bon. On va laisser évidemment les coordonnées à Philippe Robichaud qui se fera un plaisir de rentrer encore plus dans le détail littéraire, évidemment. C'est sa spécialité, il adore ça. Vous allez jouer avec les mots. Merci Khaled, à bientôt.
C'est moi
Merci
qui vous remercie.
Wahid, on remercie ton frère, le prénom de ton frère
Tarak.
Tarak, qu'on embrasse très fort, qui est avec nous.
Mais à la maternité, en fait, ils ne savaient pas dire son prénom. Donc ouais. Ils ont dit Turki.
Turki, bon bah Turki qui est avec nous. Tarak, merci à Turki. Toutes et à tous. Merci allez, Wahid, merci Mona.
Merci.
Merci à tout le monde. Rendez-vous ce soir pour ma part, 16h sur Beurre FM. Ciao, ciao.